Et oui, car demain matin, le soleil a rendez-vous avec la Lune. C'est notre satellite qui va passer devant notre étoile en projetant son ombre sur la Terre. Même si en France, l'éclipse sera partielle, elle sera maximale à 10h30. Et c'est un grand spectacle astral auquel nous allons nous préparer avec mes différents invités qui seront à mes côtés en studio, mais également en duplex de l'Islande où nous retrouverons un chasseur d'éclipses. Nous serons également en ligne avec un astrophysicien qui va pousser un coup de gueule contre certaines écoles qui ont choisi en France d'interdire demain à leurs élèves d'assister à ce phénomène naturel pourtant exceptionnel. C'est le dossier de la Tête au Carré dans un instant, en partenariat avec la revue Ciel et Espace, et j'attends bien sûr toutes vos questions, vos messages pour nos invités, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Pas de une de la science aujourd'hui, en raison d'un mouvement de grève. Violaine Ballet réalise cette émission qui a été préparée par Anne-Cécile Perrin.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Demain, le soleil s'éclipse. C'est donc le dossier de la Tête au Carré cet après-midi avec Ciel et Espace en studio, Philippe Hénarejo. C'est l'astronome Jean-Eudes Arlot. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Philippe, ce phénomène auquel on va assister demain n'a donc pas eu lieu depuis combien de temps maintenant? 2011, hein, c'est ça, à peu près?
À peu près, oui. Oui. Les éclipses sont assez rares et fréquentes. Enfin, il y en a chaque année, mais les éclipses de soleil ne concernent qu'une petite région du monde à chaque fois. Donc, statistiquement, on ne se trouve pas trop souvent sous l'ombre de la Lune.
Et la prochaine éclipse totale, elle, est programmée pour septembre 2081.
En France.
En France. Donc, c'est une occasion exceptionnelle pour nous, quand même, demain, de sortir dehors.
Oui, parce que demain, c'est une éclipse totale, mais pas pour nous. Nous, on est un peu en dehors de la bonne zone, mais elle est quand même une belle partielle, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que le soleil est caché dans les régions du nord de la France à plus de 80%. 80% voilà. De sa surface sera masquée par la Lune.
Donc on aura de quoi avoir quelques frissons quand même.
Hein. Voilà, il restera, c'est le matin du croissant solaire, il restera un croissant de soleil. C'est quand même exceptionnel à voir.
Jean-Eudes Arlot, est-ce qu'il y a un lien entre la marée du siècle, dont on parlait hier, et l'éclipse demain?
Ah bah absolument, puisqu'on est au moment de la nouvelle Lune. Donc il y a un alignement Soleil, Lune, Terre. Et donc l'effet gravitationnel de la Lune et du Soleil va se conjuguer. Puis en plus de ça, on est proche de l'équinoxe. Donc on a tout pour avoir le maximum. Voilà. On a, je crois, un coefficient de 119 pour les marées. Alors qu'en fait, le maximum, c'est 120. Donc vous voyez que c'est même difficile de faire mieux.
Bonne configuration en ce moment. On partira donc en Islande tout à l'heure retrouver le chasseur d'éclipses Yves Delahaye. Et puis, les écoliers seront-ils privés d'éclipses demain? Hervé Dolle, vous êtes en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien et vous venez de publier dans Le Monde une tribune intitulée « Non à l'obscurantisme dans certaines écoles de la République ». Vous êtes en colère quand même, hein?
Bah, je suis en colère contre certains inspecteurs qui veulent éclipser les écoliers de ce phénomène majestueux et exceptionnel, alors que les guidelines, enfin les recommandations du ministère sont très claires. Hein. On peut observer en toute sécurité, avec ou sans lunettes, hein, on en parlera j'imagine. Alors certains inspecteurs refusent ce droit aux élèves de participer à cette observation qui va susciter la curiosité et peut-être la passion des citoyens de demain.
Et vous n'êtes pas le seul à être en colère, Riddle, si j'en juge déjà par le nombre de messages qu'on reçoit à ce sujet. On s'en fera l'écho avec vous dans quelques minutes. Toutes les questions et les messages arrivent sur franceinter.fr.
La Tête au Carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Et on retrouve la suite de La Tête au Carré avec donc notre dossier cet après-midi consacré à l'éclipse de soleil.
Ah là 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 là, c'est parti là.
Ça commence à l'entirer.
Aïe aïe aïe.
Ça l'entoure.
Il fait juste, ouais, il fait juste.
Attends, il faut que je dise que je fasse la mise au point.
Ouais.
C'est parti. Ouais, ça y est.
Voilà, ils sont bien énervés. Ce sont des touristes français à l'occasion d'une éclipse en 1999, extraits des racines et des ailes. Et ce sont peut-être ces cris que vous pourrez entendre demain, si le ciel est bien dégagé, à l'occasion de l'éclipse partielle de soleil. Éclipse qui sera donc totale pour une petite zone dans l'Atlantique Nord. Phénomène naturel qui reste toujours exceptionnel. C'est donc le dossier cet après-midi en partenariat avec la revue Ciel et Espace qui consacre son dernier numéro à cet événement. Philippe Hénarejo, donc vous êtes avec nous pour en parler. Jean-Eudes Arlot, vous êtes astronome à l'Institut de mécanique mécanique céleste et de calcul des éphémérides. C'est à l'Observatoire de Paris. On va être en liaison dans quelques instants avec l'Islande, Yves Delahaye, chasseur d'éclipses. Et puis on aura donc l'astrophysicien Hervé Doll qui s'énerve contre les écoles qui ont décidé de priver leurs élèves de cette éclipse. Toutes vos questions, vos messages dès maintenant, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Philippe Hénarejo, ciel et espace sur le pont, avec les lunettes spéciales évidemment sur le nez pour observer le soleil sans danger. C'est le dossier spécial de votre dernier numéro, hein.
Ben oui, puisque une éclipse, c'est un phénomène extraordinaire, très intéressant, qui dépasse la mécanique céleste. C'est aussi quelque chose de culturel, que beaucoup de peuples, tous les peuples à travers la Terre connaissent ça. Donc, il faut pouvoir l'observer. Et l'un des meilleurs moyens, c'est d'avoir quand même ses lunettes pour se protéger. Ce n'est pas le seul, parce qu'on parle beaucoup de pénurie de lunettes en ce moment. Si vous n'avez pas de lunettes, il y a quand même des moyens pour l'observer aussi. Des moyens très simples. Vous prenez un morceau de carton, vous prenez un clou, vous faites un trou bien rond de 1 mm ou 2 dedans, et puis vous mettez une feuille de papier derrière ce carton, vous allez voir, en dressant ce carton vers le soleil, qu'à travers le trou, il y a un peu de lumière qui passe, et que ça fait comme un ancien appareil photo, le sténopé. Et sur la feuille blanche que vous mettrez derrière, vous aurez une toute petite image. Certes, elle sera toute petite, mais vous verrez bien le soleil qui se dessinera comme un rond, qui sera grignoté progressivement par la Lune jusqu'à devenir un croissant. Donc cette éclipse peut être observée par tous.
Et par les élèves en particulier. Jean Darlot, on entendait les cris tout à l'heure de ces Français qui avaient la chance d'être en Australie. Et c'est vrai qu'il y a toujours un frisson particulier dans ces moments d'éclipse. Hein.
Alors c'est vrai que quand on n'a jamais vu d'éclipse totale de soleil, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. Parce que c'est vraiment la nuit en plein jour. Parce que finalement, quand on a une éclipse partielle, bah oui, la luminosité diminue un petit peu. Mais c'est tout, ça diminue, voilà, un petit peu comme s'il y avait des nuages. Mais au moment de la totalité, vous avez vraiment le disque de la Lune qui occulte complètement le soleil. Il fait nuit, vous levez les yeux vers le soleil et vous voyez un rond noir. Donc là, on comprend très facilement que dans l'Antiquité, tout ça, les gens aient peur. On a un frisson. Même aujourd'hui, on a un frisson dans le dos quand tout d'un coup, alors ça dure quelques minutes.
Le petit coup de froid qui arrive
oui,
aussi.
Oui, en plus de ça, il y a un coup de froid.
Baisse de température.
Les animaux qui changent leur attitude, les oiseaux, tout ça, c'est vraiment un instant magique.
Philippe ?
Oui, parce qu'en quelques secondes, on passe du jour à la nuit. Parce que tant qu'il reste un morceau de soleil visible, c'est le jour.
Ouais.
Et dès qu'il se cache, c'est la nuit. Alors déjà, c'est quelque chose de pas habituel du tout, parce que quand le crépuscule, la nuit vient lentement. Donc là, on passe du jour à la nuit. Et puis, on se retrouve quand même dans une lumière, une luminosité, il en reste un peu, une luminosité un peu irréelle. C'est un peu une lumière halogène. C'est très difficile à décrire. Il faut l'avoir vu pour savoir ce que c'est vraiment. C'est très rare. Et on voit la couronne solaire qui donne un peu de luminosité. On voit les protubérances qui sont ces éruptions, ces flammes solaires qui sont sur le pourtour du disque solaire, qui ont une lueur rose, saumon, fluo, qui est très belle à voir à l'œil nu. Et on assiste à ce moment-là, à un moment, vraiment, il y a un univers d'écart entre une éclipse partielle, même où il resterait 1% du soleil visible, et une éclipse totale. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Allez, on file en Islande parce que lui a de la chance. Il aura un petit pourcentage grignoté en plus par rapport à nous. C'est Yves Delahaye, chasseur d'éclipses. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes bien arrivé donc en Islande. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là-bas maintenant ?
Nous sommes là depuis 2 jours et là, en ce moment même, nous sommes sur le Vatnajökull, le glacier du Vatnajökull, en train de repérer des sites possibles d'observation.
Alors voilà, parce que maintenant il faut choisir pour vous. Pourquoi vous avez choisi l'Islande alors qu'a priori sur les îles Féroé, vous auriez eu peut-être une éclipse encore plus intéressante ?
Oui, certes, aux îles Féroé, on aurait eu une éclipse qui aurait été véritablement totale.
Ouais.
Malheureusement, l'hébergement est très réduit, les places sont très réduites et les probabilités météo étaient très faibles. Alors on a misé sur l'Islande pour une éclipse partielle, certes, mais partielle à 99,4%.
Ah, c'est pas mal.
Donc ça promet un spectacle assez inhabituel. Et puis en même temps, on ajoute à ça l'observation des aurores boréales.
Ah oui, donc vous allez être gâté quand même, parce que là, effectivement, ça va être double spectacle pour vous. Décrivez-nous l'endroit où vous vous trouvez exactement, Yves Delahaye, pour nous faire un peu rêver.
Présentement, nous sommes pratiquement au milieu de nulle part, Autour de moi, c'est complètement blanc. Il y a entre 1 mètre et 2 mètres de neige selon les endroits. Mmh. Il y a quelques reliefs qui apparaissent. Pour le moment, le ciel est assez plombé, mais la particularité de l'Islande, de la climatologie de l'Islande, c'est que le temps change très rapidement. On a vu le cas hier où le ciel était plombé de la même façon et en quelques 5 à 10 minutes, on a eu un ciel parfaitement dégagé. On a pu observer les aurores dès que le soleil s'est couché.
Ouais. Il n'y a pas d'éruption volcanique d'annoncer parce que alors là, ce serait le clou du spectacle quand même pour demain.
Oui, ce serait la cerise sur le gâteau, mais ouais. Non. Pour le moment, il n'y a rien de prévu de ce côté-là.
Ouais. Yves Delahaye, vous courez le monde depuis combien de temps pour observer ces éclipses? Parce que vous êtes vraiment un dingue, hein.
On peut dire ça comme ça, oui, ça fait maintenant 50 ans que je parcours le globe avec mon épouse et puis maintenant avec des groupes d'amateurs passionnés à la poursuite des éclipses et l'éclipse de demain, ce sera notre 29e éclipse, dont 28 total.
Ouais, donc vous avez beaucoup de minutes à votre compteur, effectivement. Hein. Demain, donc en Islande, ça va durer combien de temps et qu'est-ce que, a priori, la lumière va vous réserver?
Alors, ça va durer au total 2 heures, depuis la première morsure de la Lune jusqu'à son dégagement complet. Mmh. Elle sera partielle, comme je vous l'ai dit, à 99,4%, ce qui laisse un très mince croissant solaire. À ce moment-là, il y a quand même une baisse de luminosité qui est extrêmement sensible. Le soleil, à ce moment-là, ne sera pas très haut au-dessus de l'horizon, à peu près une vingtaine de degrés. Et par rapport au paysage enneigé, ça promet un spectacle assez remarquable.
Et oui, c'est ça, parce que il y a de la neige partout là autour de vous en Islande en ce moment?
Ah oui, dans l'est de l'Islande, à Reykjavik, non, il y a de la neige, mais pas tellement. Mais là où nous sommes, dans l'est, à l'endroit où elle sera la plus complète possible, mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de neige, et même depuis cette nuit, minuit, il a neigé jusqu'à maintenant.
Ouais. Jean-Eudes Darlot, Philippe Hénarejos, pour les Français, évidemment, hein, qui seront quand même là demain au rendez-vous, il vaut mieux se trouver où? Alors plutôt en Bretagne, c'est ça, Jean-Eudes Darlot?
Alors, c'est vrai que c'est plutôt vers le nord-ouest, mmh. Bretagne, toute la côte, de Bretagne jusqu'à Dunkerque, où on est aux environs de 80%.
C'est
quand
pas
même
mal,
beaucoup,
hein.
80%.
On va quand même avoir quelques frissons, Philippe, demain.
Oui, oui. Hein, sauf que il n'y aura pas d'instant T comme pour une éclipse totale. C'est-à-dire qu'il faudra regarder sa montre pour se dire « Ah, c'est à ce moment-là ». Alors, en gros, vers 10h30, mais ça dépendra de l'endroit où on se trouve, où le soleil est le plus masqué. Donc, vous aurez un laps de temps de quelques minutes. Il n'y a pas, si vous voulez, un basculement immédiat où tout d'un coup, le soleil est là, puis hop, il n'est plus là. Ouais. Donc, il faudra être vigilant avec sa montre.
Oui, il y a 80% du soleil qui est caché, donc 80% de lumière en moins. Le problème, c'est que ça se fait progressivement. Et l'œil s'habitue. On a un œil qui est très bien fait, pour que quand la lumière diminue, finalement, on ne s'aperçoit pas de grand-chose. Ouais. Donc c'est pour ça, on va s'habituer, mais il y a quand même 80% de lumière du soleil en moins.
Bon, il paraît que the place to be, en tout cas, ce sont les Hébrides, à l'ouest des Hébrides, le seul lieu terrestre, paraît-il, où on pourra avoir l'éclipse presque totalement sur un petit rocher, c'est ça, 22
mètres? Non, ça c'est parce qu'en préparant le dossier pour Ciel et Espace...
Il y a la photo, c'est ça du...
J'étais très frustré avec cette éclipse, pour tout dire. Je me disais, mais il n'y a que les îles Féroé et le Svalbard, est-ce qu'il y a quand même une terre quelque part? Alors j'ai regardé l'Atlas, j'ai cherché et j'ai trouvé ce caillou qui s'appelle
Rocal.
Il est en photo, je l'ai mis en photo.
Avec un petit bateau à côté.
Un bateau pour l'échelle. Il fait 22 mètres de haut et 25 de large. J'ai appris que c'était le sommet d'un volcan sous-marin qui est au milieu, à 300 km à l'ouest des Hébrides, donc les îles britanniques non loin de l'Écosse, et qu'il se trouve à 13 km de la bande de totalité. Donc c'est la Terre émergée la plus proche de la bande de totalité, où je crois que c'est à
96%.
Donc, mais il n'y a personne, il n'y a que des oiseaux, c'est totalement inhospitalier.
Ce serait vraiment l'endroit pour être tranquille.
C'est totalement inhospitalier.
Jean-Eudes Darlot.
Il y a aussi un endroit d'où on la verra, c'est le pôle Nord. Il y aura une banquise, et du pôle Nord, on verra l'éclipse. Et il y a une chose extraordinaire, c'est qu'on verra l'éclipse alors que le soleil sera couché. Le soleil sera sous l'horizon et pourtant on verra l'éclipse à cause de la réfraction atmosphérique qui nous fait remonter le soleil et nous le faire apparaître.
Oui. Alors, à mon avis, il y a d'autres personnes qui verront l'éclipse et qui ne l'ont peut-être pas programmée. Ce sera toutes les personnes qui prendront l'avion en vol transatlantique
quelle chance.
Et qui se trouveront un peu par hasard, ouais, sur le tracé de l'ombre de la Lune au moment où ils traverseront l'Atlantique pour aller, ouais, qui sait, de Norvège aux États-Unis.
On écoutera un sujet sur le Concorde, hein, pour ceux qui en 73 ont eu la chance de vivre de très longues minutes d'éclipse. Ça a duré plus d'une heure. Viron nous dit ceci, les éclipses solaires totales sont observables peu de temps. Est-ce en raison du mouvement des planètes Terre-Lune, Jean-Eudes Arlot?
Oui, ça vient du mouvement relatif. On a donc un cône d'ombre derrière la Lune. Mmh. Et ce cône d'ombre, sa vitesse va dépendre à la fois du mouvement de la Lune autour de la Terre, aussi de la Terre autour du Soleil, et aussi du mouvement de la Terre autour de son axe. Alors, par chance, le mouvement de la Terre autour de son axe compense le mouvement de l'ombre sur la Terre. Et plus on est à l'équateur, plus les éclipses vont durer longtemps, puisqu'il y a une compensation. À l'équateur, on va beaucoup plus vite, évidemment, qu'au pôle Nord. Et donc, si on est à l'équateur, les éclipses, en général, durent plus longtemps. Les éclipses totales durent plus longtemps que vers les latitudes élevées.
Un message d'Armut. Il est journaliste allemand, actuellement en vacances dans le Berry. J'écoute votre émission. J'ai appris que la France était en rupture de stock de lunettes de soleil pour observer l'éclipse. Eh bien, débrouillez-vous, nous dit-il. Dans toute ma jeunesse, on a utilisé un carreau de fenêtre bien nettoyé, ensuite noirci avec une bougie. Voilà, pour ceux qui n'ont pas les moyens de prendre des lunettes.
C'était les vieilles méthodes, mais il faut avoir conscience que ce procédé artisanal n'est pas forcément garanti 100%, parce qu'il y a des rayons solaires qui sont les infrarouges et les UV. Si ce n'est pas bien fait, et il n'y a aucun moyen de savoir si c'est bien fait ou pas, on peut avoir quand même des problèmes avec l'œil, puisque les infrarouges et les UV, c'est ça qui crée les lésions sur la rétine. Donc je le déconseille quand même.
Arlo, un auditeur nous dit des lunettes stockées correctement depuis l'éclipse partielle de 2006, sont-elles utilisables sans danger pour demain?
Alors, si elles n'ont pas été pliées, si elles n'ont pas été abîmées, normalement, elles ne s'abîment pas toutes seules, c'est clair. Mais il faut bien répéter qu'il ne faut qu'arrive sur l'œil qu'un 100 000e de la lumière solaire. Donc, vous vous rendez compte, c'est très, très important. Donc, évidemment, si vous mettez suffisamment noir de fumée, mais est-ce que vous serez sûr d'avoir mis pour absorber autant de lumière?
Oui, on peut écarter la sensation d'éblouissement. On peut avoir la sensation de bien voir le disque solaire, mais on peut aussi, dans ce cas-là, ne pas filtrer assez et avoir ces rayons nocifs qui arrivent jusqu'à l'œil.
Ce qu'il faudrait, c'est que tu te résignes à quitter la vie. Suivre cette fille. Jaloux, tellement sensible, à ton âge encore, tu t'obstines. Chercher plus loin. Que tu te résignes. c'est la vie. Par les ailes étuyées. Dans tant d'ennuis, tu t'imagines une échappée. Attends ainsi.
Quitter la ville, c'est Ron à l'instant dans notre tête au carré, quand le soleil s'éclipse avec ciel et espace, donc dans les kiosques, il reste encore des lunettes alors peut-être Philippe, pour ceux qui pensent qu'il n'y en a plus.
Dans tous les kiosques où il reste des ciel et espace, il y a des lunettes dedans.
Voilà, pour observer donc l'éclipse partielle demain en France ou pour les Vénards qui seront peut-être dans l'Atlantique Nord. Vous êtes avec nous également en compagnie de Jean-Eudes Arlot, l'astronome. Yves Delay, donc vous êtes toujours en duplex de l'Islande. Racontez-nous quand même le démarrage pour vous de cette histoire. Comment vous avez attrapé le virus des éclipses, vous qui les chassez toute l'année?
Eh ben, j'étais très très jeune. Déjà depuis l'âge de 6-7 ans, je m'intéressais au ciel, je regardais les étoiles, je posais des questions. Et puis il y a eu un événement déterminant le 15 février 1961. Il y avait une éclipse totale de soleil qui était visible depuis la France. Et depuis le midi de la France, vous l'avez peut-être deviné à mon accent, je suis de Provence et de Marseille en particulier, et j'ai pu à l'âge de 12 ans donc observer cette éclipse totale. Ça a été le déclic face à ce phénomène tel que l'ont décrit mes collègues sur le plateau, extraordinaire, et on tombe dans le chaudron et on ne peut plus en sortir.
C'est pour ça que c'est important que les enfants demain, les écoliers aussi, puissent, Philippe, observer cette éclipse.
Mais oui, c'est important parce que ça, une éclipse, il faut savoir que ça n'est pas seulement de la science, c'est aussi de la culture, c'est de l'histoire, c'est des langues, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Et bon, on va sans doute parler tout à l'heure de problèmes avec l'école, mais c'est un outil pédagogique formidable pour avoir plein d'entrées sur de l'histoire, de la géographie, des sciences, des maths, tout ce qu'on veut, qui a priori n'intéresse pas le public captif. Que sont les enfants, mais là ça peut les intéresser parce que c'est concret, parce qu'on voit quelque chose et ça peut susciter des vocations.
Yves Delahaye, il y a des recordman dans votre domaine de la chasse aux éclipses. Il paraît qu'il y a un Américain qui est surnommé Monsieur Éclipse.
Oui, c'est Fred Espena qui totalise un peu plus d'une heure de totalité, donc il me devance puisque j'en suis personnellement à 56 minutes. Mais pour reprendre ce que disait Philippe, et je suis d'accord avec lui, il faut que les enfants puissent suivre le phénomène. Malheureusement, on n'a pas pu tous les équiper avec les fameuses lunettes spéciales. Il a cité avec fort à propos le système du sténopé, le carton avec un trou. On peut ajouter quelque chose, c'est la bassine d'eau qu'on pose par terre et on regarde le reflet du soleil dans l'eau.
Ah.
Quitte à ce moment-là à mettre une paire de lunettes de soleil classique pour regarder le reflet du soleil dans l'eau.
Bon, tout le monde,
à ce moment-là, on peut l'observer à plusieurs.
Tout le monde n'est pas d'accord autour de la table. Hein. Jean-Eudes Arlot, la bassine d'eau, ça vous plaît moyen apparemment. Hein.
Oui, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait qu'un 100 millième de la lumière du soleil. Ça dépend de l'angle sous lequel on le regarde, et effectivement, on ne va pas dire aux enfants, attention, il faut être sous cet angle avec ses lunettes, donc c'est un petit peu risqué quand même.
C'est frustrant, surtout, moi, je trouve, d'être obligé de regarder dans une bassine alors que tout se passe au-dessus de la tête, non?
Oui, on regarde à l'inverse, ouais. Mais bon, encore une fois, c'est pas anodin de regarder une éclipse, donc c'est pas sans danger, mais à partir du moment où on connaît les consignes, on sait ce qu'il faut faire et il ne faut pas faire, on peut, le système de la projection est certainement le meilleur, hein. On peut regarder une image, certes on tourne le dos au soleil, mais on voit son image et cette image est réelle.
Christelle nous dit, maman de 4 enfants, je suis atterrée parce que je suis obligée de faire rater les cours de mes enfants afin qu'ils puissent voir l'éclipse. Les enfants, notamment en fin de primaire, sont censés apprendre les cycles du soleil et on les prive d'éclipses. Écoutez justement pour en parler le témoignage d'un chasseur d'éclipses frustré.
J'habitais à Grenoble en 1960, je vais avoir 8-9 ans, et il y avait une éclipse totale, la deuxième du siècle en France. Or, à cette époque, il y a une psychose qui s'est développée en France. Les éclipses, c'est dangereux. Attention les yeux. Et mon instituteur, croyant bien faire, ne voulant pas qu'on se fasse mal aux yeux, a fermé les volets. Et pendant toute la durée de l'éclipse, nous avons fait classe ordinairement avec les volets fermés. Et j'étais horriblement frustré de ne pas voir ce phénomène, alors que, par exemple, mon père avait pris une demi-journée de congé pour la voir, ma mère la regardait par le balcon, etc. Moi, j'étais à l'école et j'ai rien vu.
Voilà, c'était dans Des Racines et des Ailes. Hervé Doll, vous êtes en ligne avec nous, astrophysicien, et vous publiez dans Le Monde une tribune en réaction justement aux décisions de certaines écoles d'enfermer leurs élèves pour les empêcher d'observer l'éclipse demain. Le titre de votre tribune, non à l'obscurantisme dans certaines écoles de la République, parce que vous montrez avant tout l'aspect enrichissant et inoubliable de cette expérience, Hervé Doll.
Ben oui, puis comme cela vient d'être évoqué, il y a des moyens extrêmement simples et sans moyens, enfin si du carton on peut considérer que c'est pas des moyens, pour l'observer en toute sécurité et pour éveiller l'esprit très curieux de nos enfants. Alors oui, je suis assez outré, alors même si les termes sont peut-être un peu exagérés compte tenu du contexte international, mais néanmoins le site du ministère donc d'éducation nationale, de la santé et le site des professionnels de l'éducation hein, et du SCOL sont très clairs sur la manière d'opérer. Ils n'interdisent pas les enfants d'observer. Ils recommandent effectivement de n'utiliser que des lunettes spéciales pour observer directement le soleil. Effectivement, pas de bassine, rien du tout, parce que ces autres systèmes artisanaux ne filtrent ni les UV ni les infrarouges. Donc seulement les lunettes pour une vision directe. En revanche, il est tout à fait possible et envisageable et très recommandé quand on a une classe et qu'on n'est qu'un seul adulte avec 25 ou 30 élèves, d'utiliser les systèmes par projection. Vous mettez vos doigts en croisillon, vous prenez un papier, un carton avec des trous, vous regardez à travers un arbre, etc., mais vous regardez le sol, et vous verrez parfaitement le soleil éclipsé, vous pouvez même faire des petits dessins, donc c'est très ludique et pédagogique.
Alors,
donc,
Hervé Doll, ce que vous dites, hein, vraiment dans cette tribune, c'est à quel point certains enseignants vont rater une opportunité exceptionnelle là, de faire une expérimentation avec leurs élèves.
Exactement. Moi, je suis outré, voilà, en tant qu'esprit qui tente d'être éclairé, de rater cette opportunité. Parce que, comme ça a été évoqué il y a quelques instants, c'est une expérimentation. Et les enfants, et souvent les enseignants sont en général les premiers à être volontaires pour faire des expérimentations. Tout le monde aime expérimenter parce que c'est en fait très profond. On peut, par exemple, voir demain matin l'accord entre une prédiction scientifique et une mesure que feront certains enfants. Et ça, d'un point de vue conceptuel, c'est extrêmement fort et extrêmement profond. Notre société actuelle, avec beaucoup de décisions irrationnelles, voire qui se réfèrent à la pensée magique, hein, en fait, est quand même fondée sur une approche scientifique de beaucoup de phénomènes. Toute la technologie autour de nous est issue d'études scientifiques. Et on oublie parfois que la science fait des prédictions qui sont ensuite observées. Et donc demain, on a cet exemple typique, parce qu'après tout, si vous demandez à un enfant de CE1 ou de CM2, est-ce que demain va y avoir une éclipse et pourquoi ? Alors il vous répondra peut-être oui, parce qu'il en a entendu parler, mais finalement, elle n'aura peut-être pas lieu demain l'éclipse, on n'en sait rien. Donc on le verra demain, effectivement, que ça commence bien à la bonne heure. Et ça, c'est l'archétype de la démarche scientifique et qui peut être expliqué de manière très sensible.
Oui, bah c'est Einstein en 1919 d'ailleurs. Hein. C'est grâce à cette éclipse à ce moment-là, Philippe Hénarejos, qu'il y a eu quand même le miracle Einstein, enfin la vérification en tout cas de ces théories.
Ça c'est ce à quoi ont servi les éclipses, c'est à certaines vérifications scientifiques, et là l'éclipse 1919 qui était une éclipse totale qui était dans l'Atlantique Sud, il y a eu plusieurs expéditions qui ont été menées pour observer non pas le soleil pendant l'éclipse, non pas la lune, mais les étoiles qui étaient juste à côté. Parce que Einstein avait prédit quoi ? Que quand un corps est massif, il déforme l'espace-temps autour de lui, et donc s'il y a un autre corps lumineux qui se trouve derrière, les rayons allaient être déviés, et donc la position apparente de ce corps, donc cette étoile, allait être différente que celle prévue. Donc on a fait des photos de l'amas des Pléiades, qui est un amas d'étoiles, qui était juste à côté du soleil au moment de l'éclipse, pour montrer que sa position était légèrement décalée, et ainsi prouver la théorie d'Einstein. Alors, c'était pas aussi simple que ça, mais en gros, ça a marché.
Ouais. Francis nous dit ceci, comme de nombreux enseignants ayant préparé des ateliers sur l'éclipse de vendredi, je suis atterré par l'imbécilité des décideurs de l'éducation nationale. Une éclipse est l'occasion de sensibiliser à la science des millions d'enfants et de faire naître des vocations. Je suis curieux de savoir l'attitude des pays voisins à ce sujet. Jean-Eudes Arlot. Vous aussi, vous êtes agacé, hein ?
Oui, parce qu'on parle toujours des mathématiques, c'est compliqué, ça ne sert pas à grand-chose. Bah, c'est les mathématiques qui nous permettent de faire ce calcul. Et qu'on se rende bien compte, en France, on a eu une éclipse totale en 1999, il y en aura une en 2080, eh bien les mathématiques sont capables de prévoir à quelques secondes près ce qui va se passer en 2080. Et c'est comme cette éclipse, on prévoit à quelques secondes près ce qui va se passer. C'est vraiment important de montrer aux enfants que les mathématiques servent à quelque chose de concret. On est capable de dire quand est-ce qu'un phénomène astronomique va arriver.
Hervé Dolle, vous écrivez dans votre tribune, hein, « Notre société est-elle à ce point malade que personne ne fait la différence aujourd'hui entre le plan Vigipirate et une éclipse hein ?»
Effectivement, là sur Twitter, il y a des gens qui plaisantaient sur le mode, les gens confondent l'éclipse avec un terroriste, bon, enfin, sans mauvais esprit. Effectivement, moi je suis un petit peu effaré du principe de précaution qui est, bon, qu'il ne faut pas non plus ignorer, hein, évidemment. Hein, l'éclipse peut être dangereuse si on regarde le soleil pile poil devant, hein, mais ça c'est vrai tous les jours en fait, hein, c'est pas juste le jour de l'éclipse. Effectivement, le jour de l'éclipse, on a envie de regarder le soleil parce qu'il y a des choses rigolotes qui s'y passent. Mais effectivement, on est dans une sorte de psychose un peu généralisée où, effectivement, pas mal de cadres de notre pays sont un peu illettrés en termes de culture scientifique et donc on met au même niveau Vigipirate, l'éclipse, etc. C'est un petit peu dommage. Et surtout, comment développer l'esprit critique de nos enfants si on met un petit peu tout au même niveau dès qu'il y a le moindre risque. Alors, il ne faut pas ignorer les risques, hein, c'est pas ce que je dis, mais donner un avis éclairé, expliquer les choses et puis chercher des moyens alternatifs aux lunettes, parce que tout le monde n'aura pas de lunettes, parce que les gens s'y prennent un petit peu au dernier moment. On parlait du carton, du sténopé, tout cela est possible. Voilà, gardons raison, tout simplement.
Pierre nous dit à Bourges, je viens d'apprendre que toute sortie scolaire est interdite pendant l'éclipse. Avec notre club astro, on avait pourtant invité les écoles à l'observer en toute sécurité. C'est à l'eau et pourtant, vive la science. Yves Delay, les petits Islandais, est-ce qu'ils vont être parqués dans les écoles ou pas demain, à votre avis ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils ont prévu des moyens de protection et les gamins pourront observer l'éclipse sous la tutelle de leurs instituteurs et avec les moyens de protection adéquats, car tout le monde s'est préparé au phénomène ici.
Ouais. Et Hervé Dolle, pour terminer la conclusion de votre tribune, un seul remède, sortez tous voir l'éclipse demain, évidemment.
Et c'est vrai manif.
Exactement. Et c'est une tribune formidable à lire dans les pages du Monde. Merci Hervé Dolle, en tout cas.
Merci.
On poursuit le dossier éclipse solaire dans un instant. Vos messages nombreux, franceinter.fr.
February, keep on holding on, and I know it's sharp, and I know it's sharp, and it's times like these, and it's days like these, and it's times like these, and it's days like these. It's been a long time coming, but I'm falling short. Cause you could say this is not too far to carry this. Cause you could say this is not too far to carry this. You could say this is not too far to carry this. Cause you could say this is not too far to carry this. Cause you could say this is not too far to carry this. And it's times like these, and it's days like these. You could say this is not too far. And it's times like these. This day is like, it's been a long time coming, but I'm falling short. Cause you could say this is not too far to carry. It's been a long time coming, but I'm falling short. Cause you could say this is not too far to carry. Not too far to carry. Because you took something away from yourself.
Falling Short avec Lapsley sur France Inter. Allez, l'éclipse solaire avec nos camarades de Ciel et Space. Le soleil s'éclipse demain. Vous avez entre autres ce numéro pour en savoir plus sur l'histoire aussi, parce qu'effectivement, ça a beaucoup marqué les peuples et les sociétés, hein, Philippe Hénarejos. Hein.
Ah oui, c'est quand même un phénomène, comme on le disait, surtout quand il est total, qui marque pas mal les esprits. Donc, à travers l'histoire, il y a de la science, mais il y a aussi tout un tas d'histoires de cultures à découvrir, ouais. Notamment dans notre numéro.
Ouais. Est-ce que Yves Delahaye, vous avez rendez-vous avec les elfes aussi demain pour l'éclipse ou pas ? Comment ça se passe chez vous ? Vous en avez croisé là sur la route ?
Alors, on n'en a pas croisé, pas d'elfes, pas de trolls, mais c'est un sujet très sensible en Islande.
Oh oui.
Il faut être très prudent là-dessus.
C'est vrai.
Mais je peux vous dire que ça ne laisse effectivement, comme le disait Philippe, jamais insensible. Je me rappelle en Indonésie, une éclipse, on avait un camp d'observation situé à côté d'un petit village. Les gens étaient dans des cases en bambou, ce qui ne les empêchait pas d'avoir la télévision couleur. Et le gouvernement, pour des questions de sécurité, un petit peu ici comme avec les enfants à l'école, avait interdit d'observer l'éclipse. Il fallait suivre l'éclipse à la télévision, ce qu'ils ont fait scrupuleusement. Mais il n'empêche qu'au moment de la totalité, eh bien, tout le monde est sorti des cases en tapant sur des casseroles pour chasser le dragon qui mangeait le soleil. Voilà.
Jean-Yves Darlot, votre belle éclipse, vous, elle est sibérienne, je crois, hein?
Oui, alors c'est vrai que j'ai eu la chance de voir l'éclipse de 2008 en Sibérie, on a eu un temps magnifique, et c'est vrai que quand on discute avec la population qui est là, puisque tout le monde est là pour regarder l'éclipse, les gens, avant les gens, ah bah oui les astronomes, vous prévoyez une éclipse, oui c'est bien, c'est bien, et après l'éclipse totale, c'est... Ah bah oui, alors ça, c'était un sacré truc. Oui, les gens sont vraiment étonnés.
Qu'est-ce que vous faites dans votre laboratoire de mécanique céleste et qu'est-ce qu'on apprend encore aujourd'hui en observant une éclipse solaire, alors quand on est scientifique?
Alors aujourd'hui, on n'observe plus tellement les éclipses solaires. Ça a encore un intérêt, mais depuis qu'il y a des satellites spécialisés, comme le satellite SOHO, qui observe en permanence la couronne solaire et la surface du Soleil, effectivement, c'est quand même un petit peu aléatoire de faire toute une expédition pour aller observer une éclipse et avoir des nuages. Donc c'est vrai que maintenant, c'est plutôt les satellites d'observation qui observent le Soleil lui-même.
Et les éclipses du passé, elles ont des choses à nous apprendre aussi ou
pas ? Oui, alors les éclipses du passé ont une chose importante, c'est qu'elles permettent de dater des événements historiques. Parce que vous voyez, en France, il y en a une en 1999, totale, la prochaine en 2081. Donc si on retrouve sur un vieux manuscrit dans 10 000 ans, c'était l'année où il y avait une éclipse. Alors en plus de ça, on peut décrire l'éclipse, que le cône d'ombre arrive d'une certaine direction, ça dure un certain temps. On peut effectivement dater. Effectivement, il y a une éclipse qui a été observée à Babylone en -135. On a pu la calculer, on a pu identifier de quelle éclipse il s'agissait. Et là, on a découvert une chose très importante, c'est que nos prédictions ne collait pas, c'était il y a un siècle à peu près, ne collait pas avec ce qu'avaient observé les Babyloniens. Et on a trouvé la solution, c'est parce que la Terre ralentit dans son mouvement de rotation autour de son axe. Ouais. C'est comme ça qu'on a découvert ce mouvement de ralentissement.
Viron nous dit, les éclipses solaires ont-elles un avenir? Si la Lune s'éloigne de la Terre, les éclipses solaires ne seront plus totales, Philippe Hénarejos.
Et oui, c'est vrai que, vous savez, depuis les missions Apollo et les sondes russes qui se sont posées sur la Lune, on a installé des réflecteurs laser sur la Lune. Et avec certains télescopes, ils sont très peu. Il y en a un en France, un aux États-Unis. On envoie des faisceaux laser sur la Lune pour mesurer au centimètre près la distance entre la Terre et la Lune. Et depuis qu'on fait ça, depuis les années 60, on mesure que la Lune s'éloigne.
Ouais.
très progressivement, de l'ordre de quelques centimètres
par an. 3 centimètres par an.
Ah ouais. Et donc, l'incidence sur les éclipses.
Donc, si on se donne des milliards d'années devant nous...
Oui, il n'y a même pas besoin de milliards d'années.
Peut-être
je
pas.
Que, donc, voilà. Ça arrivera bientôt qu'il n'y aura plus d'éclipse totale.
Elle sera trop petite pour masquer le soleil. Ouais. Oui, parce que si on a des milliards d'années en plus, le soleil, lui, va commencer à gonfler. Donc, c'est son diamètre qui va grossir et qui va empêcher les éclipses totales.
Déjà, le nombre d'éclipses totales est plus faible que le nombre d'éclipses annulaires. C'est, en moyenne, la Lune a un diamètre plus petit que le Soleil au cours du temps.
Donc, Yves Delahaye, justement,
on évolue vers ça.
Une éclipse annulaire, ça vous concerne bientôt ou pas ?
Ah ben les éclipses annulaires, on en a déjà observé plusieurs. Bon, on va en avoir dans les années à venir. Alors le phénomène est complètement différent par rapport à l'éclipse totale, mais c'est assez spectaculaire surtout lorsque les deux diamètres Lune-Soleil sont assez proches, c'est spectaculaire de voir le Soleil réduit à ce qu'on appelle un anneau de diamant, complètement inhabituel et encore plus spectaculaire qu'une éclipse partielle, bien entendu. Ouais.
Mais je crois qu'il y en a une à La Réunion, c'est ça, en 2016, vous irez ?
Oui, 2016, oui. Ouais. Ah, bien sûr, on prépare ça ardemment. Ouais.
Il y a une photo dans Ciel Espace, c'est absolument magnifique. C'est vraiment ça, c'est un anneau de diamant autour de la Lune. François nous dit, est-ce que les animaux, leurs yeux, voire les végétaux peuvent aussi être affectés par une éclipse, Jean-Yves Darlot ?
Ah ben les animaux, oui, parce que tout d'un coup, il fait nuit. Je me souviens même en France, en 1999, il y avait des nuages. J'ai donc pas vu la couronne solaire au moment de la totalité, mais j'ai vu les chauves-souris sortir des granges à la campagne au moment de l'éclipse totale. Il fait nuit, allez hop, tous les animaux de nuit se disent, tiens, c'est l'heure, c'est peut-être un peu tôt, mais enfin...
Agnès nous dit, j'aimerais savoir si on peut regarder l'éclipse en se protégeant avec des radiographies. Tout le monde nous propose sa recette, en tout cas. Mais là, prenez des lunettes.
Là encore... Que dire ? Ça peut marcher, sauf que vous n'avez pas la certitude d'avoir une protection correcte. Ouais. Donc, ça ne vaut pas le coup de prendre ce risque-là, franchement.
Le verre du masque de soudeur peut-il convenir en sécurité, nous dit Véronique à Narbonne, qui part chasser l'éclipse et la marée à Port-en-Bessin.
Oui, il peut convenir, mais si c'est du grade 14. Ouais. Et donc, là aussi, il faut en être sûr, parce que si c'est inférieur, ça ne protège pas assez.
Et puis Boris, est-ce qu'on peut observer l'éclipse par l'intermédiaire d'une tablette ou d'un téléphone portable en la filmant au travers de l'objectif qui les équipe, Jean-Yves Darlot?
Bon, on peut toujours filmer, effectivement, ou photographier une éclipse. Alors, ce que je vous ai dit, c'est qu'il fallait un 100 000e de la lumière du soleil pour l'œil, pour ne pas abîmer l'œil. Il faut un 10 000e pour ne pas abîmer votre récepteur sur votre appareil de photo. Mais les anciens appareils réflexes sont dangereux parce qu'on avait la lumière directement dans le viseur.
On part à bord du Concorde pour les Vénards qui étaient dans cet avion mythique.
1973.
Ouais, le 13 juin. Et qui ont parcouru 3 000 km, 17 000 mètres d'altitude pour vivre 74 minutes d'éclipse. C'est absolument inégalé, seul le Concorde le permettait.
10h53, Concorde est rattrapé par le cône d'ombre exactement au point prévu en latitude et longitude, avec une précision de l'ordre de la seconde. L'appareil navigue maintenant dans l'obscurité totale. Seul dans le ciel de Mauritanie, qui depuis 0h est interdit au trafic. À cette altitude, la vue s'étend jusqu'à environ 450 km, montrant la courbe de la Terre à l'horizon. On distingue sur le sol l'ombre circulaire de la Lune, la zone de pénombre et au-dessus une magnifique coupe de la basse atmosphère avec la troposphère dont les poussières diffusent une lumière blanche, surmontée de la tropopause, puis la stratosphère à la base de laquelle vole Concorde et qui diffuse une lumière bleue sombre.
On reprend le siège sur 3 heures. 3 heures à nouveau. Attention.
12h03, le soleil réapparaît après une totalité qui, en définitive, aura duré 70 minutes. Concorde quitte la bande de totalité, amorce sa descente et entame sa procédure d'approche pour atterrir à Fort-Lamy.
Et 74 minutes d'éclipse pour les chanceux qui avaient payé très cher leur billet pour être à bord du Concorde. Vous imaginez, Yves Delahaye, vous ? 74 minutes, vous battez votre record là tout de suite, vous explosez Monsieur Eclipse.
Oui, tout à fait, bah, c'est un record absolu et c'était une belle opportunité que d'utiliser le Concorde. Ce jour-là, j'étais avec une équipe de tournage au Niger, où nous étions allés par la route après maintes péripéties et au moment de la totalité, on a pu observer l'éclipse, mais le Concorde qui passait tout juste à côté de l'éclipse. C'est un souvenir extraordinaire.
Jean-Yves Darlot, des éclipses, il y en a ailleurs dans le système solaire aussi. Hein.
Ah oui, tout à fait, un cône d'ombre le cône d'ombre derrière la Lune qui tombe sur la Terre, on trouve ça ailleurs. Si on prend une planète très grosse comme Jupiter, son cône d'ombre est énorme et tous ses satellites vont passer régulièrement dans ce cône d'ombre. Et ces phénomènes, qui sont d'ailleurs assez spectaculaires dans une petite lunette, ont beaucoup servi dans le passé. Parce que vous voyez, une éclipse totale, ça arrive brutalement. Donc c'est facile à dater, c'est à quelques secondes près. Eh bien, ces éclipses qui arrivent avec les satellites de Jupiter ont permis aussi de faire de la datation, de déterminer des temps universels et donc de mesurer des longitudes et des latitudes à la surface de la Terre et même de cartographier la Terre. Elle a été faite avec des éclipses des satellites de Jupiter.
On termine avec le message de François. La lumière au moment de l'éclipse totale, c'est comme quelque chose de très vibrant, de pointillé. C'est un phénomène que j'ai déjà vu en observation d'objets sous lumière laser. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces phénomènes liés à la nature de la lumière ?
Au moment juste avant l'éclipse totale, effectivement, la lumière change un petit peu de nature, elle devient un petit peu bleutée. Sans doute, il y a un filtrage par le bord de la Lune, mais c'est vrai que c'est particulier.
Merci beaucoup Yves Delahaye pour ce duplex de l'Islande. On vous envie, on aimerait bien venir vous rejoindre là tout de suite pour assister à l'éclipse demain. Profitez-en bien.
Merci à vous.
Et puis Philippe Hénarejos, ce numéro donc de Ciel et Espace, hein, le soleil s'éclipse, c'est vraiment le moment de se le procurer avec les lunettes hein, qui permettront donc demain de regarder l'éclipse en toute sécurité. Et puis j'espère vraiment que le maximum d'écoliers pourront évidemment assister à ce phénomène naturel qui reste toujours exceptionnel. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux et merci à vous tous pour vos nombreux messages sur franceinter.fr.